Ben non, mais je veux dire, je m'affole. Parce que les sous sont pas là. Je veux dire, je capitule pas devant ça. Mais je veux dire, ça n'altère quand même pas la qualité. La qualité finit toujours par émerger quelque part, d'après moi. Je veux dire, de ce côté-là. Et je veux dire, la qualité est tellement forte que même le théâtre, le visage du théâtre d'été est en train de... C'est-tu marqué dans ma description?
Optimiste, non.
Non? Je suis narcissique.
C'est irrationnel, par exemple.
Irrationnel, oui, ça, tout à fait. Mais tu sais, je veux dire, moi, je me bats là pour essayer de donner une autre image au théâtre d'été, puis ouais. C'est en train de... Petit à petit, ça va finir par faire son chemin. Moi, je suis allé à grand-mère hier voir Le Temps d'une vie. C'était... plein de monde, c'est-à-dire que c'était pas plein, mais il y avait, disons, trois quarts de salle. Tous les gens qui étaient là adoraient ça. Tous les gens venaient me remercier de me présenter ce type de théâtre-là l'été. Et à peu près tous les gens qui étaient là, c'est des gens qui viennent me dire, vous savez, nous autres, le théâtre de toi, on y allait pas. Mais là, on est en train de... Parce que moi, j'arrêtais pas de dire, ben voyons donc. Là, moi, c'est pas une comédie, je monte un drame. Ça, bon. Oui. Mais il y a des gens qui détestent ça, ce type de comédie-là, que je joue et que je monte aussi, d'ailleurs. Mais il y a du monde. Et moi, je disais toujours, quand est-ce qu'on va penser à ceux, comme moi, qui n'iraient pas voir ça l'été? Je dis, moi, j'ai le goût de voir autre chose, comprends-tu? Alors, il y a sûrement du monde comme moi, puis il y en a du monde comme moi, la preuve, on remplit presque nos salles tous les soirs. Alors, je pense qu'il y a quand même de l'espoir si... Mais on est un peuple pauvre.
Hein? C'est peut-être ça qu'il faut entendre. J'avoue que vous êtes un des rares qui me parlait d'espoir et tout ça. Puis, venant de vous, ça en vaut 10 autres, peut-être.
Oui, je suis peut-être trop optimiste, effectivement. Là.
Ah, ben non. Ben, vous êtes irrationnel.
Non, mais moi, regarde, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier-là. Puis là, à l'automne, je suis sûrement une personne relativement bien connue au Québec. Et puis je pense que j'ai fait bien des affaires au niveau du théâtre, mais est-ce que tu sais qu'à l'automne, j'ai rien, aucun projet. J'ai pas de théâtre ni comme metteur en scène, ni comme comédien. Comme à la télévision, c'est pas sûr qu'il revienne. Et puis, je vais probablement gagner ma vie en faisant de la chronique.
La chronique.
Des chroniques. Je vais aller voir des spectacles, je vais lire des livres, je vais passer à la télé, puis je vais dire ce que j'en parle.
Est-ce que c'est un choix?
Ah, c'est pas un choix. On me demande pas.
Okay.
On me demande pas. Imagine le petit cul qui sort de l'école qui entend ça. Moi, une fois, j'ai des élèves qui viennent ici et ils me disent « Qu'est-ce que tu fais bientôt? » Ben, je dis « Là, j'ai rien. » Ils disent « Comment veux-tu qu'on espère travailler si toi, tu travailles pas? » Ouais. Je veux dire, quelque part, ça décourage bien gros. Mais là, moi, je me...
Ça a toujours été comme ça?
Non, c'est ça...
C'est nouveau, là, ce qui est...
Présentement, là, c'est assez inquiétant. Ça m'est jamais arrivé. Vraiment, à ce point-là, là, ça m'est jamais arrivé.
Pourtant, il me semble que depuis les 4 ou 5 derniers mois, on vous voit pratiquement...
Ah, ben oui.
Vous êtes...
C'est pas un gage de pérennité, probablement. Ça veut pas dire que... C'est-à-dire qu'évidemment, je garde mon théâtre de grand-mère et je vais travailler là-dessus. Mais ce que je veux, je te dise, la direction artistique du théâtre de grand-mère me rapporte un gros 10 000 par année. Alors, c'est pas avec ça que... faut que je fasse plein de cochonneries. C'est un des problèmes du Québec aussi. C'est que vos artistes, ou nos artistes, et quand ils font une job, par exemple, de prestige qui serait culturellement importante que moi, je mette 16 heures par jour là-dessus. Là, pour grand-mère, là, j'ai des dossiers pour des demandes de subventions pour essayer justement d'en faire un endroit où on va encourager les jeunes acteurs, puis on va monter des pièces dans le jour, dans les trucs. Alors là, il faut que je prenne le temps de le faire, ça. Ouais. Mais pendant que, au lieu de faire ça, je vais toujours faire une chronique à 4 saisons, justement, parce que la job que j'ai me paye pas assez pour que j'y accorde tout mon temps, tu comprends-tu? Alors, je m'éparpille, je fais du doublage.
Vous me donnez la réponse à tout l'entretien qu'on vient d'avoir.
Je pense, vous finalement.
Vous avec ça et vous me donnez la réponse, là. Et c'est
Mais, ça a un avantage extraordinaire. Mais j'ai une liberté magique de faire ce que je veux. Si j'étais en France et que j'avais été nommé directeur artistique du théâtre populaire de Chalon-sur-Saône... Ah oui, oui. Je serais le directeur artistique du théâtre populaire de Chalon-sur-Saône. Ben, du coup, le lendemain, je ne ferais plus de doublage. Je ne serais plus de conneries à TV parce que je deviendrais un monsieur très important en France. Et puis, bon, je serais payé en conséquence, ce serait merveilleux. Et je deviendrais un rond de cuir au bout de quelques années. Alors que là, le fait d'être constamment obligé de gagner ma vie ailleurs, je me retrouve tout à coup, bon, au doublage. Ça a l'air niaiseux, le doublage. Mais quand tout à coup, tu tombes puis que tu doubles Dustin Hoffman dans un film, et que tu le regardes travailler, puis que tu le revois à répétition, puis tu essaies de faire comme lui, même à 50 ans, tu apprends. Tu sais, je veux dire, c'est génial. De se retrouver dans une mauvaise série, avec un mauvais acteur, puis d'arriver à être meilleur que lui, puis de donner un peu... ça fait partie aussi de la culture, ça, de se prendre un produit, de se l'approprier, puis d'en faire quelque chose de mieux. Oui. Et puis, tout ça fait que je veux dire, pendant que je suis le fameux directeur de Chalon-sur-Saône, je reste quand même, de temps en temps, je vais enseigner à l'École nationale, donc je suis, je sais c'est qui les jeunes comédiens qui vont sortir, je vais être capable d'aller chercher les meilleurs, je vais être capable de les faire travailler. C'est alors que ailleurs, je veux dire, aux États-Unis, avec le succès que j'ai eu dans Christian, je serais devenu une vedette super populaire. J'aurais une grosse maison à Big Sur et je me contre-colisserais du monde entier. Et j'aurais fait une tapette de moi pendant 3 ans à TV. Je serais devenu riche et je ne serais pas directeur du théâtre de Chalon-sur-Saône. Tu comprends-tu? Appelons-la grand-mère pour la suite. Je ne serais pas directeur de ce théâtre-là parce que mon statut de vedette aurait fait que je serais devenu riche. Puis là, ben, j'aurais fait fuck.
Tu n'as pas besoin de.
J'aurais plus besoin, tu comprends-tu, ouais. D'aller accepter une. Cette job-là, je suis pas riche, mais maudit que je reçois des reconnaissances des gens qui. Gens m'aiment à cause de ça aussi. C'est parce que, je veux dire, en même temps que je suis une vedette populaire, je fais aussi ma part pour la culture. Moi, je suis heureux dans ce système-là, quelque part, tu sais.
Bon, mais, ben, moi, je suis un magicien et je vous accorde un vœu, un seul, n'importe quoi. Ça peut être. D'avoir l'amour de votre vie, de manger du spaghetti à soir. Je vous accorde un vœu, puis je vous garantis qu'il va se réaliser. Qu'est-ce qui serait votre vœu?
Rapidement. Faut pas réfléchir.
Non,
la seule chose qui me manque dans la vie, là, c'est de ne pas voyager autant que je voudrais. Mmh. Partout dans le monde, je veux dire, j'ai été obligé, étant donné que je vis dans une petite société pauvre, et que moi, je suis riche dans cette société pauvre-là, mais je suis pauvre à travers par rapport aux autres, j'ai été obligé de faire des choix. J'ai le goût d'avoir une maison, j'ai le goût d'être confortable, je voyage plus. Parce que, je veux dire, j'ai pas les moyens, je veux dire, les gens pensent que je suis riche, tu sais, j'aimerais ça même...
Peut-être les gens qui connaissent pas du tout...
Tu sais, je veux dire, on a même pas les moyens ici, par exemple, je dirais... À mon théâtre, à grand-mère, écoutez, il y a une pièce à Paris, là, faut que j'aille voir ça parce qu'on n'a même pas les moyens de se payer le voyage pour. Tu sais, je veux dire, l'année prochaine, moi, je vais avoir le choix, ou bien non, je vais à Paris pour voir la pièce, puis je me vote un budget de 2000$, ou alors je prends ce 2000$-là, puis je le mets sur la musique de mon show. Et moi, s'il y a une chose que je. Puis ça, je pense que tu vas être content d'entendre ça, c'est très rare que je monte un spectacle sans au moins qu'il y ait un musicien qui m'écrive une musique originale, parce que je trouve que justement.
Oui, c'est un synthétiseur.
Oui, malheureusement, on n'a pas le moyen. Je veux dire, François Sasseville...
Mais si vous vouliez, vous ne pourriez pas à cause de la guilde des musiciens.
Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, mon musicien, il est frustré, puis il me dit, quand est-ce que je vais avoir un orchestre symphonique, parce qu'il écrit des musiques absolument magnifiques. Mais, tu sais, on est bien obligé de penser que peut-être qu'un jour, je créerai un événement, puis que je réussirai.
Mais songez aux orchestres des conservatoires et aux orchestres des universités, qui sont très bons et qui ne sont pas membres de la guilde. C'est un aide que je vous fais.
Ouais.
C'est tout à fait gratuit, vous versez 1 000 ou 2 000 $.
Répète-moi dans ça.
Toute la faculté de musique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Conservatoire de Trois-Rivières, le Conservatoire de Chicoutimi, le Conservatoire de Québec, tout ça, c'est tous des orchestres symphoniques.
Est-ce que tu es en train de dire que le Conservatoire, ou je sais pas, à Trois-Rivières, là,
ouais.
Moi, grand-mère qui est à côté de Trois-Rivières, ouais. Je monte une pièce l'année prochaine ouais. Qui s'appelle La famille tout court en solo ce soir. Bon, je vais te montrer ça.
Bon. Dans la suite de ça, mais qu'est-ce qui vous a fait le plus de peine?
Non, ça n'a rien à voir avec la culture, là.
Non.
On parle de.
C'est vraiment personnel. C'est une question que je demande toujours aux gens et c'est toujours une chose qui revient qui est en commun avec tous les artistes, finalement. Et
tu veux dire la réponse?
Oui,
je ne sais pas si ça va être en commun. Moi, je ne suis pas quelqu'un.
Qu'est-ce qui vous a fait le plus de peine?
C'est-à-dire que moi, quand j'ai de la peine,
ouais.
J'ai développé une espèce de moyen de défense qui est l'humour. C'est-à-dire que je travaille de toute façon dans. Je gagne ma vie comme acteur en riant des autres et j'essaie d'apprendre à rire de moi. Ce qui veut dire que quand il m'arrive un malheur épouvantable, je vais automatiquement le voir en sketch. Je vois cette situation-là transposée, je la vois en chapitre de roman, je la vois dans un sketch à la TV et j'arrive à rigoler à travers ça en disant « Mon Dieu, je suis ridicule ». Et je me revois l'année passée, j'ai eu une période très, très dense. Après mon livre, j'ai fait une... Et pour répondre à la question, c'est probablement cette période-là, c'est l'après-livre, où je ne savais plus pourquoi j'avais écrit ça, je ne savais pas si j'avais bien fait d'écrire ça. J'étais très gêné tout à coup de voir que je me dévoilais entièrement devant le public. La madame qui est derrière là sortait avec mon livre, puis il y avait un signe ici. Et puis elle venait me tuer, puis je regardais le signal où il était rendu, je dis, mon Dieu, elle connaît la longueur de la queue de mon premier chum. Et j'étais complètement, je me disais, non, écoute, je suis allé trop loin. Alors, et puis, je suis tombé amoureux pour écrire mon dernier chapitre. Et c'était pas vrai, après, je me suis rendu compte que c'était simplement une passion, c'était simplement un trip de cul, toute la patente. Et j'avais quelqu'un qui était vraiment un profiteur et tout ça. Et là, je me suis retrouvé dans un état lamentable, mais malgré ça, quelque part, pendant que j'étais vraiment là, au bord du suicide. Moi, je savais que je me suicidais jamais.
Est-ce que c'est une dépression?
J'ai fait une énorme dépression.
Une dépression.
Totale, là, la pire que j'ai vécue dans ma vie. Sauf qu'à travers cette dépression-là, à un moment donné, je me disais toujours, je sais par les exemples que j'ai à travers ma vie que je vais m'en sortir. C'est juste de savoir quand. Je ne savais pas quand. Et un matin, je me suis réveillé en pleine forme. J'ai dit, frère, non, ça, c'est fini. Et ça, c'est moi, ça. Alors, des périodes tristes.
Le plus gros choc qui vous aurait attristé finalement?
Je ne sais pas.
Parce que c'est vous arrivez à vous en soigner?
Je ne sais pas, parce que j'ai appris à connaître mes cycles. Je veux dire,
oui, oui.
Je suis sûrement un maniaco-dépressif léger. Alors, dans les périodes dépressives, je sais que ça ne peut que remonter. Alors, j'arrive pas dans une... Moi, je veux dire, je suis obligé de me pincer pour être plus dépressif que je le suis en réalité. Comme là, maintenant, j'ai pas d'ouvrage à l'automne, mais je me dis, ça peut pas durer. Ça va marcher. Qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Je le sais pas. Comprends-tu? Alors, tu me parles...
Arrivez-vous à fonctionner dans vos états dépressifs? Arrivez-vous à fonctionner quand
même? Ah, ben oui.
Ça vous empêche pas d'aller faire du théâtre et tout? Ou devenez pas agoraphobe?
Non.
Non.
Je pense que je suis quelqu'un très en santé physiquement et mentalement. Je veux dire, à mon âge, je touche du bois. J'allais probablement l'année passée, j'ai fait une cure de sommeil à l'hôpital d'une semaine pendant cette dépression-là. C'était la première fois de ma vie que j'allais à l'hôpital. Et j'allais à l'hôpital, mais c'était même pas pour une maladie grave. Là, c'était dans ma tête. Là, ça fitait pas. Alors, je me dis, je pense que d'abord, j'ai la certitude, je vais vivre très 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 vieux. Alors, je le sens.
Je croyais en l'amour.
Ben,
c'est quelque chose qui est complètement...
Je ne crois qu'à ça.
Vous croyez à ça?
Ah! Je suis toujours amoureux. Je pourrais pas faire ce métier-là si je n'étais pas toujours amoureux. Et je suis toujours amoureux. C'est effrayant. Je suis amoureux présentement.
Tu tombes amoureux d'une roche dans
la ruelle. Pas à ce point-là, là,
non,
mais je veux dire... J'ai de la difficulté à faire l'amour sans être amoureux. Alors,
c'est sûr.
J'aime la clandestinité quelque part dans la sexualité qui, d'après pour moi, règle bien des problèmes. C'est-à-dire ça me permet d'être amoureux de gens avec qui la sexualité est peut-être impensable ou impossible, ou même des gens qui sont pas homosexuels, c'est pas grave. Alors que je considère présentement, je vis quelque chose avec quelqu'un que je considère comme mon fils, mais je vis ma sexualité ailleurs. Mais je suis... Autant je dis que j'ai mon univers ici, je ne serais pas prêt à revivre une vie de couple comme je l'ai vécu collé pendant 13 ans et 10 ans. J'ai eu deux expériences de vie de couple, une de 13 ans, l'autre de 10 ans. Je ne pense pas être capable de repartir ça. Mais n'importe quand, je veux dire, je sais que je peux me réembarquer. Je ne sais pas de quelle façon. Puis probablement que la personne atterrira ici. Je dis, j'ai un 3,5 qui se libère en bas là, bientôt, dans un an. Alors j'aimerais ça avoir quelqu'un pour partager ma vie dans la maison où je suis. Et puis, je me dis que, je veux dire, j'y croyais plus. Puis là, tout à coup, à un moment donné, je me regardais à lui. Je dis, bon, ben là, oublie ça, tu sais, je veux dire, est-ce que t'es, physiquement, tu vieillis, t'engraisses, t'aimes pas l'image, comme t'étais narcisse jeune, maintenant, c'est difficile à accepter. C'est pour ça que j'enlève les grands miroirs de ma salle de bain, j'en mets des petits, tu sais, parce que, mais quelque part, je commence à croire que peut-être ça peut plaire à certaines personnes, à cause de ce que je représente dans le métier, à cause de ce que je représente au niveau de les gens. Je sens que les gens m'aiment, c'est officiel.
Oui.
Comment ça va finir, je ne sais pas. J'ai 54 ans, j'ai eu deux aventures très, très importantes et je pense qu'il y en aura une autre. Comment elle va se présenter, je n'en sais rien.
Et sur ce, ils sont très beaux. Je ne suis pas habitué d'en voir.
OK.